campagne, bonjour. Les carnets sont encore dans le département des Deux-Sèvres, lequel ne sera pas épargné par les 35e journées européennes du patrimoine qui se dérouleront samedi et dimanche. À l'échelle européenne, pas moins de 24 000 événements, enfin au minimum, sont annoncés. Et pour notre seul département des Deux-Sèvres, 814 animations sont répertoriées sur le site national qui donne le détail département par département. Vous allez trouver le lien à nos pages émissions. À chaque étape, vous avez le choix entre une simple visite ou entre des animations plus originales, telles que des concerts, des récitals, des découvertes de l'artisanat local. Et puis on a reçu à ce sujet un courrier dans le cadre de ces journées, c'est l'ouverture au grand public de la médiathèque Aqua Libris à Saint-Mexant-l'École. C'est étonnant parce que c'est en fait une ancienne piscine militaire des années 30. Le lieu est assez vertigineux. Voilà le type d'exemple qui vous est proposé pendant ces journées. Alors, il est un lieu aussi qui mériterait une visite approfondie et qui est l'ancienne briqueterie de Bressuire, à la seule différence que ce patrimoine industriel a pris une nouvelle tournure sous la forme d'un tiers-lieu qui répond au nom de GOB. Thibault Lalu va apporter des explications sur le choix de ce nom et les activités qui s'y déploient. Et puis nous rendrons ensuite à Saint-Léger de la Martinière, nous rendrons visite à Christophe Labrousse qui est fondateur d'un collège, pas comme les autres, réservé aux jeunes en rupture scolaire, le collège Dominique Savio.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Thibault Lalu, bonjour.
Bonjour.
Thibault, vous êtes à l'origine d'un lieu avec d'autres, mais vous êtes quand même le premier à lancer cette idée d'atelier hybride espace partagé qui s'appelle la GOB à Bressuire. En fait, vous avez investi une ancienne briqueterie qui était vouée à quoi? À disparaître, à être démolie?
Alors, ça faisait plusieurs temps qu'elle était à l'abandon. Et on a acheté l'année dernière avec mon associé, Hugues Bernot, un bâtiment qui était en très mauvais état, mais qui avait un intérêt patrimonial très intéressant. Mmh. Il se trouve que ce bâtiment est dans Bressuire. Il a 3500 m² de cours et 1700 carrés de bâtiments. Et du coup, c'était des bâtiments qui étaient pas chers et qui étaient intéressants pour pouvoir créer un tiers-lieu comme on le voulait.
Alors, vous avez installé votre entreprise Electra Organique, mais là où entreprise d'éco-construction, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça, ouais. Oui. Donc, on fait essentiellement de l'isolation en matériaux naturels, ouate de cellulose, chaux chanvre, et on fait aussi des poêles de masse. Ouais. Et il y a plusieurs locataires de ce tiers-lieu qui sont orientés vers l'éco-construction.
Et alors, les autres sont des structures culturelles, la compagnie du cirque Lazuli, une association HPS, hip-hop, il y a aussi des artisans bah, comme vous, mais d'autres, des auto-entrepreneurs aussi qui sont avec vous, des bureaux partagés. C'est quoi? Ça ressemble à un hôtel d'entreprise, ça, non?
Mais c'est le principe du tiers-lieu, c'est d'essayer d'avoir une mixité, et cette mixité a porte différents horizons, différentes façons de penser, et c'est ça qui devient intéressant dans le tiers-lieu, c'est-à-dire c'est faire concorder des réseaux pour que de nouvelles idées naissent.
Est-ce que des échanges sont possibles? Je vous pose la question parce que quels sont les points communs ou les points de convergence entre le cirque Lazuli et votre entreprise?
Ah bah avec le cirque Lazuli, par exemple, on peut créer des décors, c'est-à-dire que nous, on a un certain matériel. On a des ateliers et c'est vrai que le cirque Lazuli construit eux-mêmes leurs décors et donc ça peut être du conseil technique ou ça peut être du prêt de matériel.
Quel type de gouvernance vous avez choisi, Thibault, pour gérer la GOB?
Alors la GOB, il y a une SCI qui est donc propriétaire du bâtiment, mais par contre on a choisi que la gouvernance soit complètement démocratique, donc il y a une association qui gère le lieu en fait. Donc autant dans son animation que sur les prestations extérieures en communication, comment on va essayer d'intégrer d'autres locataires, mais aussi des événements qu'on va créer à l'intérieur du lieu pour pouvoir dynamiser ce lieu, parce que le but c'est justement d'avoir quelque chose qui est hybride entre le professionnel, le culturel, le loisir, tout ça mélangé sur un même lieu.
Mmh. Et vous organisez des rencontres du libre?
Alors la rencontre du libre, oui, c'est un événement qu'on organise chaque année, c'est en fait... C'est sur l'idée des logiciels libres, donc la propriété, l'open source, qui est souvent associée à du virtuel dans le logiciel libre. Et ben là, on le propose aussi sur des idées de fabrication de machines, de design sur des chaises, enfin, on est plus dans le côté matériel de l'open source, quoi.
Et alors, comme vous êtes toujours en cours d'aménagement, parce que le projet gonfle, s'amplifie, vous attendez de nouveaux locataires à l'automne prochain, vous êtes toujours en quête de matériel et de matériaux de construction?
Ouais, alors le but aussi, c'est que ce matériel, comme on est sur un projet privé et on n'est pas milliardaire, bah, le but, c'est aussi de faire de la récup et de faire du réemploi. C'est-à-dire que dans le bâtiment, on voit, nous, sur les chantiers, qu'effectivement, il y a très souvent des choses qui sont, certes, un petit peu obsolètes, mais qui sont pas complètement foutues. Et donc, on a tendance à récupérer des matériaux pour pouvoir créer ce lieu à moindre coût.
Comment on arrive à trouver un équilibre financier sur ce type de projet?
Eh ben, c'est essentiellement les locations. Alors, le fait qu'on ait acheté le bâtiment pas cher nous permet aussi d'avoir des mensualités à la banque qui sont pas très élevées.
Oui.
Et donc, les loyers des différents locataires suffisent à couvrir les coûts.
Oui.
Et on essaye d'être au moins cher possible aussi, c'est-à-dire de faire un bâtiment pas trop cher pour éviter de répercuter les coûts sur les locataires.
Alors, et puis, tout le monde met la main à la pâte, pas uniquement pour la gouvernance, comme vous le disiez, mais aussi sur la restauration chantier participatif.
Bah, le but, c'est de faire du chantier participatif avec des méthodes telles que le terre-paille ou de la récupération d'huisseries, de palettes pour pouvoir fabriquer les différents box de location.
Ça s'appelle la GOB, G-O-B, en référence à la GOB Le Cher, le quartier de Bressuire, où est cette ancienne usine devenue la GOB Atelier Hybride Espace Partagé. La GOB.fr pour l'adresse, et vous allez avoir le lien aussi avec la société de Thibaut Electra Organique. Merci Thibaut.
Merci.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
La commune de La Crèche, qui compte 5500 habitants, avait un nom prédestiné pour accueillir et héberger de nouveaux venus. Ces nouveaux venus sont principalement des migrants dont l'arrivée au début de l'été 2017 avait soulevé des craintes. Ils étaient 90 à être ainsi envoyés dans cette commune, à la surprise générale, y compris à celle de son maire qui prit l'annonce, comme le rapporte le journal de la Nouvelle République, comme un coup de massue. Installé dans un hôtel, ça va beaucoup mieux maintenant, installé dans un hôtel réquisitionné à cet effet, les migrants ont été soutenus par de nombreux habitants réunis dans une association créée en la circonstance qui s'appelle tout simplement Accueil et Solidarité. James, un de ses bénévoles, nous fait partager aujourd'hui les résultats d'une première intégration de cette nouvelle population qui a permis de dissiper les craintes et les appréhensions. Accueil et Solidarité, constitué d'un noyau de 150 bénévoles répartis en plusieurs commissions afin de répondre aux besoins les plus élémentaires, la nourriture, l'habillement, les cours de français, le transport, la culture, la formation. Un grand concert de musique du monde avait été organisé fin août pour mieux faire connaître l'importance d'un tel engagement solidaire avec la participation des migrants dans un esprit de fête et d'échange, et apparemment c'était très réussi. J'ai le pressentiment que le nom de la crèche est finalement très mérité. Vous allez trouver un lien avec la page Facebook de cette association qui mérite qu'on s'intéresse à elle et qu'on salue son travail d'accueil, Accueil et Solidarité. Donc c'est à nos pages d'émission, évidemment. Christophe Labrousse, bonjour.
Bonjour.
Je ne sais plus comment vous présenter. Pédagogue, conférencier, maire de la commune de Saint-Léger de la Martinière, sans étiquette, je le dis au passage. Fondateur, directeur du collège Dominique Savio. Alors pour vous présenter, je vais sur le site du collège et je lis « Brillant sujet durant ses études, Christophe se sent néanmoins mal à l'aise en classe sans vraiment comprendre pourquoi. Est-ce que depuis vous avez compris pourquoi ?»
Oui, je pense, parce que les élèves que j'accueille aujourd'hui à Savio sont des enfants qui ont refusé consciemment ou inconsciemment le moule entre guillemets « éducation nationale ». Je n'ai absolument rien contre l'éducation nationale, mes enfants sont dans les écoles de la République. En revanche, les gamins que j'accueille sont des gamins qui ont un appétit plus grand, on va dire, que les autres et qui souhaitent que l'éducation passe par de nouvelles pédagogies. Le fait de se retrouver assis derrière à écouter un prof pendant une heure, c'est très compliqué, surtout avec notre génération actuelle qui est une génération de l'écran, qui est une génération de l'immédiateté. Et c'est compliqué pour un enfant de rester assis toute une journée.
Et ça veut dire que vous avez échafaudé votre propre technique éducative et pédagogique ?
Complètement. J'étais prof dans l'éducation nationale à Royan et un jour j'ai décidé, on m'avait confié une classe d'enfants en difficulté, une classe de 5e, et au vu des difficultés que rencontraient ces enfants qui aimaient l'école mais qui étaient en grande souffrance, je me suis dit, c'est pas possible, il faut trouver une façon de faire pour ces jeunes. Et puis c'est vrai que lorsque j'en ai parlé, on m'a dit bah oui, mais c'est pas ce que fait l'éducation nationale. Et j'ai dit tant pis, je claque la porte alors que j'ai toujours voulu être prof, et je vais essayer de travailler sur une pédagogie qui serait adaptée à la jeunesse d'aujourd'hui. Ça fait 23 ans et c'est vrai que les résultats sont assez sympathiques.
Alors quels sont les fondamentaux de cette pédagogie ?
Alors nous suivons le programme officiel de l'éducation nationale. En plus, les enfants passent le brevet des collèges au collège de Mel. Ensuite, c'est à la carte, c'est-à-dire en fonction des points forts, des points faibles des enfants, en fonction de leur rapidité, en fonction de leur histoire aussi, eh bien, on adapte. Et moi, je pratique beaucoup la pédagogie inversée, c'est-à-dire que je leur donne du travail à faire. Ils ont une feuille de route le lundi. Sur cette feuille de route, ils ont les exercices à faire, les cours. Ils viennent nous poser des questions, évidemment, parce que beaucoup ne comprennent pas au départ. On les aiguille, mais à eux de trouver la réponse. Et ensuite, ils ont une correction personnalisée des exercices qu'ils nous ont rendus. Un cours, mais avant de faire ce cours, nous les profs, c'est l'enfant à qui nous donnons 2, 3, 4 minutes pour résumer le cours qu'ils ont compris à travers les exercices. Mmh. Et c'est vraiment les rendre cette pédagogie interactive. J'ai beaucoup d'intervenants extérieurs qui viennent, des écrivains, des troupes de théâtre, des sportifs, justement, et puis beaucoup d'associations, parce qu'il est important que ces intervenants puissent échanger avec nos jeunes.
Oui. Des jeunes qui sont souvent en rupture scolaire ou déscolarisés, comme vous le dites.
Oui.
Ça a un coût, tout cela, 750 euros par mois.
Voilà, ça a un coût. Alors après, je me bats pour... J'aimerais que l'école soit reconnue école expérimentale ou école pilote. Et j'ai des comptes à rendre au ministère, ce que je fais. Et là, je suis en train de créer... J'ai ouvert une école des parents il y a un an. Le cercle des parents, pas carré. Et je suis en train de créer une formation. On dit toujours qu'être parent, c'est un métier. Alors je dis, ok, super, mais il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas d'âge de départ à la retraite.
C'est juste.
Et à partir de là, donc cette formation va s'appeler le CAPE, c'est-à-dire le certificat d'aptitude pour devenir un parent éclairé. Il y aura 3 sessions de 2 journées pendant les vacances et l'objectif est de remettre à la fin de ces 3 sessions un diplôme de formation pour être un parent éclairé. Mmh. Et là maintenant, je vais me battre pour que cette formation soit reconnue.
Mmh. Si vous voulez en savoir davantage, parce que j'imagine que ça vous intéresse, vous, parents, écolesavio.fr hein, pour l'adresse. Et alors, Saint-Léger, la Martinière, va être absorbé par Mel.
C'est-à-dire, pas absorbé, on va pas dire ça, parce que j'étais contre au départ. Non, nous serons 5 communes déléguées pour créer une commune nouvelle qui va s'appeler Mel, parce qu'on n'a pas à changer le nom d'une ville historiquement importante sur notre territoire. Et l'objectif est de pouvoir continuer de mener des projets d'envergure, j'ai envie de dire, qui vont répondre aux attentes du territoire. Mmh. Voilà.
Alors chez vous, dans le projet prochain, 7, 8, 9 juin 2019, vous allez rassembler les Saint-Légers de France et d'ailleurs.
Oh ouais.
Et il y a 72 Saint-Légers en France et puis il y en a quelques-uns aussi en Suisse et en Belgique.
Voilà, il y en a un en Belgique et un en Suisse. Et donc l'objectif est de faire découvrir notre territoire mélois, c'est aussi pour vivre une aventure humaine.
Mmh. Donc 7, 8, 9 juin 2019, oui. Ce rassemblement
week-end de la Pentecôte.
Tous ces Saint-Légers, ça va faire du lourd, pardon hein, pour le jeu de mots très facile. Saint-Léger de la Martinière a aussi son site et vous allez avoir le lien avec le site de la commune.
Tout est sur le site de Saint-Léger de la Martinière.
Merci Christophe.
Je vous en prie.
À propos du pays mélois, nous avons reçu hier le courrier d'un auditeur, c'est Laurent, si je ne m'abuse, qui nous disait que le pays mélois était le seul dans les Deux-Sèvres et le seul club de la région Poitou-Charentes à pratiquer le tchoukball. Je crois que c'était une plaisanterie, je suis allé voir, ça existe vraiment. C'est un sport né dans les années 60, non traumatique, accessible à tous, alliant la pelote basque, le handball et le volley, le tchoukball, voilà, dans le pays mélois. Je vous rappelle qu'au mois d'octobre, nous traverserons les départements de la Drôme, de l'Ardèche, du Cantal et du Lot, j'insiste pour le Lot. On attend toujours vos courriers, merci beaucoup. Dans les Deux-Sèvres, à Mel, Nicolas Stoufflet, le jeu des 1000 euros.